Et moi aussi. Mais vous savez qu'on dit aussi, vous le savez sûrement, que les bébés sont de grands statisticiens. C'est même comme ça qu'on apprend à parler. Hervé Glazel, on va vous donner la parole. Vous êtes neuropsychologue, je le précise, fondateur du CEREN, Centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant. En fait, j'avais une question à vous poser à propos du numérique, puisque Vincent Peillon annonçait aujourd'hui la mise en place d'un nouveau service interactif d'apprentissage de la lecture. Il ne se substituerait pas à l'école, mais il viendrait en appui. Il y a aussi de nouveaux services, tout simplement d'aide, de soutien scolaire aux enfants via le numérique. Est-ce qu'on apprend pareil via le numérique que face à un maître, face à un instituteur traditionnellement? Est-ce que ça active les mêmes zones du cerveau?
Écoutez, je trouve la question très intéressante parce que la réponse est il faut expérimenter. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de réponse toute faite. Si on veut en fait répondre correctement à ce problème qui est posé, c'est, il faut effectivement comparer une cohorte d'enfants exposée à la lecture de manière traditionnelle, une autre cohorte d'enfants qui sera exposée au numérique, et ça n'est que dans ces conditions-là qu'on sera capable de répondre à cette question. Le numérique en tant que tel, tout le monde est bien convaincu de toute façon que c'est un média, hein, et que la question de fond, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va mettre dans les tuyaux. Ce n'est pas véritablement des questions de contexte, des questions d'outils, mais évidemment, en fait, quel type d'information on va chercher à faire traiter par l'enfant qui est en situation d'apprentissage. Alors j'étais très stressé par Martine Nathalie qui m'avait dit que je n'avais que 5 minutes pour parler, mais comme je vois que tout le monde en fait met 10 à 12 minutes, je vais en profiter. L'idée, si vous voulez, c'est que ce que j'entends dire tout à l'heure, peut-être que c'était réservé à mon créneau, mais effectivement, on parle beaucoup de contexte. Hein, on parle beaucoup, en fait, de modèles d'organisation de l'éducation nationale, des moyens et de l'argent qu'on va lui donner. On parle beaucoup, effectivement, d'anxiété. J'ai entendu beaucoup parler du fait que les petits Français ou d'autres, en fait, sont très anxieux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, les textes. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas aux questions, etc. Mais je pourrais poser la question à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que l'enfant est anxieux et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à lire, ou est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à lire qu'il devient anxieux? Donc on voit bien que là, ces questions-là aussi sont un peu circulaires et qu'il serait grand temps, en fait, pour suivre ce que disait M. Blanquer, d'un peu de scientificité, hein, c'est-à-dire qu'il faut de la science pour pouvoir répondre à ces fameuses questions. Autrement, on va rester dans ces questions pendantes en se disant, mais on a le temps long, 15 ans, 20 ans, X générations, alors qu'en fait, on a des outils vraiment. Aujourd'hui, on peut affirmer un certain nombre de choses. Ce sont des connaissances évidemment révisables qui vont progresser, mais il n'empêche que nous pouvons affirmer un certain nombre de faits au niveau de la manière dont le cerveau apprend, et que donc on aidera probablement beaucoup plus vite les enfants si on est capable de pouvoir transmettre ces connaissances, et que le maître, peu importe son patron, peu importe la manière dont il travaille avec ses collègues, si lui-même est porteur des concepts qui lui permettent de transmettre l'information de manière pertinente, il sera évidemment beaucoup plus efficace et les enfants seront probablement beaucoup moins anxieux. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai envie d'utiliser en fait les études PISA comme en fait une sorte de travaux pratiques. Les études PISA, c'est en fait un travail qui se fait en papier-crayon. Vous êtes d'accord? Donc, en fait, les enfants doivent répondre à des questions écrites au moyen et donner leurs réponses à l'écrit. Pas seulement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous voyez, là, vous êtes en train de nous écouter depuis une heure et demie. Vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Et pourtant, je transmets du langage oral. Et donc, ce n'est pas simplement en vous testant, en fait, sur vos capacités d'interprétation d'un texte qu'on vous permettra, évidemment, en fait, de montrer vos savoirs et savoir-faire au moment, en fait, d'interpréter les données qu'on vous transmet lors d'une conférence comme celle-là. La manière dont on présente l'information est très, très importante. Si en fait on montre, par exemple, ce serait intéressant de proposer aux étudiants de 15 ans d'interpréter les résultats PISA. On pourrait leur présenter, par exemple, un tableau avec l'évolution de 3 ans en 3 ans, en fait, des résultats, en fait, à PISA. Et là, on a un tableau à double entrée qui est effectivement, il y a des concepts derrière, il y a une manière d'organisation de l'information. Ces informations sont organisées en tableau à double entrée. Cette fois-ci, il va falloir les traduire pour pouvoir en tirer quelque chose. je peux les montrer sous forme à... Malheureusement, les courbes ont disparu. Donc ça, c'est un peu dommage. L'idée, si vous voulez, c'est que j'avais ma deuxième slide était en fait autour d'une présentation graphique. Et on a en fait une échelle comprise entre 500 et 600, et on voit effectivement la Finlande largement au-dessus de nous et l'Allemagne est aussi au-dessus, et la France bien au-dessous avec des effets effectivement de dérivés négatives, c'est-à-dire que c'est de moins en moins bon d'année en année. Là, c'est une deuxième forme d'information qu'il faut interpréter. Et enfin, la troisième, c'était de mettre l'échelle entre 0 et 669, qui est finalement en fait entre la plus basse classe et la classe numéro 5 des résultats. Et là, en fait, les courbes sont très, très collées les unes aux autres. Et on voit bien à ce moment-là qu'on demande à l'enfant de traiter des informations de nature très différente d'une manière ou d'une autre. Laquelle est pertinente ? Il serait très intéressant en fait, de savoir avant de tester les enfants et de se dire qu'est-ce qu'on cherche à mesurer ? Regardons aussi ce qui se passe en fait autour de la manière dont on va présenter les données pour PISA. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise solution. Je dis simplement en fait que chaque enseignant et chaque fabricant d'un test PISA devrait se poser la question de se dire mais comment en fait je propose l'information, comment l'enfant est censé avoir appris à y répondre et quel type de réponse je vais demander. Un des tests, par exemple, consiste à regarder l'image d'un toit d'une magnifique ferme, un toit sous forme de pyramide. Puis ensuite, ce toit est modélisé sous la forme, en fait, d'un dessin très complexe dans lequel, en fait, l'information visio-spatiale est effectivement très élaborée, avec des cotes, etc. Et déjà, on est dans la modélisation. On est dans quelque chose, c'est pas la réalité, ça. C'est une manière de fabriquer de la réalité ou de la modéliser. Et ensuite, on pose la question, quelle est en fait la surface du plancher de cette maison ? Et vous comprenez en fait qu'au bout du compte, ici, l'information à traiter était en fait très très, très simple, puisqu'en fait, il faut calculer la surface d'un carré, d'accord, de 12 mètres de côté. Donc, c'est très important de se dire que c'est comme ça qu'on interroge les enfants à PISA. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est la mauvaise ? Je n'ai pas la réponse. En France, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait, donc, le modèle, il est quoi ? Il est du plus général au plus simple, au plus particulier. L'information qu'il fallait traiter ici, c'était interpréter un texte long, très long, avec plein de données, plein de notations, avec un certain nombre de formalismes qui, effectivement, sont un peu particulières. On doit interpréter un graphique. Et ce n'est pas n'importe quel graphique, c'est du 2D5, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du 3D représenté en 2D, avec des effets de perspective, de profondeur, etc. On doit être capable de faire un lien entre ces différentes données et le texte, utiliser des notations, être capable ensuite de récupérer en mémoire des formules. C'est tout ça, en fait, qu'on a demandé. Mais surtout, ce qu'on a demandé ici, et que probablement nos enfants savent mal faire, et j'essaie de répondre à la question sans être hors sujet, c'est effectivement comment les aider, en fait, à mieux répondre à ces questions-là. Effectivement, là, la clé de cette compétence-là, c'est d'être capable de ne pas utiliser les informations inutiles. Or, 99% des informations-là étaient non pertinentes pour répondre à la question. Est-ce que c'était effectivement la bonne formule ? Je n'ai pas la réponse. Je dis simplement que les sciences cognitives aujourd'hui, la manière dont le cerveau apprend, peut véritablement nous donner des outils pour faire que l'enfant soit capable de répondre à ces questions-là. En France, on aurait eu en fait, on serait parti du particulier. Je pense que peu d'entre vous avaient déjà vu dans votre scolarité, mais ce n'est pas l'objet de PISA, des problèmes tels qu'ils ont été posés dans le problème précédent. Et on aurait été du plus simple au plus général et on aurait posé simplement une phrase, soit un carré ABCD de côté de 12 mètres, calculer son aire et on aurait terminé. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'au fond, là aussi, est-ce que c'est la meilleure manière pour permettre à l'enfant de généraliser, à un futur charpentier, d'être capable de mesurer la taille d'un plancher ? La question est à poser. Donc l'idée, si vous voulez, il me semble très important aujourd'hui de pouvoir faire rentrer dans les apprentissages les concepts des sciences cognitives. L'information qu'on doit traiter, quelle information en fait on propose à l'enfant, quel type de traitement on va convoquer et enfin quel type de réponse on va proposer. Il faut faire attention que ces éléments, ces différents concepts rentrent de manière approfondie, et je vais rebondir sur le professeur expérimentateur, c'est totalement clé. Un professeur qui s'en sort, c'est celui qui va en permanence dans une démarche hypothético-déductive. Je propose les choses sur cette manière-là. S'il y en a trois qui n'y arrivent pas, c'est instantanément une question pour moi. Qu'est-ce qui a bloqué ? Quelle information j'ai proposée ? Quel type de traitement en fait j'ai demandé de réaliser ? Quel type de réponse j'ai demandé à ces enfants ? Donc il doit être expérimentateur, mais ça, il doit avoir des concepts. Et ces concepts des sciences cognitives, c'est pas simplement en fait le bien-être, la couleur en fait des murs ou le confort de l'enfant ou son management. C'est véritablement la mécanique cérébrale et neurobiologique en fait des apprentissages. Et ça, on a plein de choses à raconter maintenant sur les rythmes scolaires. On a beaucoup de choses à raconter sur tester les enfants, c'est aussi apprendre. En testant, c'est une démarche en fait d'apprentissage. C'est comme ça qu'on fixe un certain nombre de compétences. Attention aussi aux différents jalons du développement de l'enfant. Là aussi, tout à l'heure, M. Blanquer est parti malheureusement, mais j'allais effectivement un peu le corriger. Parce que en fait, l'école maternelle n'est pas la période du langage. L'enfant apprend à parler autour de 2 ans, est intelligible en dehors du cercle familial vers 3 ans. Donc c'est pas non plus celui de la socialisation. La socialisation, ça se fait bien avant. L'enfant se socialise dès la première année. La première information qu'il traite est sociale. Par contre, à l'école maternelle, la clé, c'est les praxis. C'est l'ensemble des gestes. C'est dessiner, faire des travaux manuels, manipuler. Et tout ça, effectivement, il faut le savoir pour savoir qu'au bout du compte, un enfant malheureux en maternelle, ce n'est pas un enfant dépourvu de langage ou qui est en difficulté sociale, c'est un enfant qui a du mal éventuellement avec ce qui est de nature praxique. Donc attention aussi aux jalons pour mieux connaître en fait l'enfant et lui apporter ce dont il a besoin pour progresser et devenir effectivement efficace et compétent dans le contexte, j'ai envie de dire, écologique.